VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Bénin, l'homme d'affaires franco-béninois Sébastien Javon, interpellé il y a une semaine dans une affaire de trafic de drogue présumée, est jugé en ce moment même en comparution immédiate par le parquet de Cotonou. Surnommé le roi du poulet pour avoir fait fortune dans l'agroalimentaire, M. Javon, qui préside le patronat béninois, a été arrêté le 28 octobre avec trois de ses employés après la découverte au port de Cotonou d'environ 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA dans un conteneur destiné à sa société. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
C'est un peu avant 8 heures du matin, heure de Cotonou, que le cortège des prévenus s'ébranla de la brigade territoriale de Cotonou pour le parquet pour une audition attendue de plein pied par les Béninois, pressés de connaître l'issue de cette affaire qui, semble-t-il, prend la priorité des préoccupations. C'est un collège de 26 avocats pour défendre le roi de la volaille, Sébastien Adjavon, et ses trois agents. La partie civile est représentée par Maître Charles Badou, avocat à la cour, le ministère public, représenté par Badirou Lawani, procureur. Après lecture du chef d'accusation, un à un, les prévenus sont montés à la barre pour se prononcer. Sébastien Javon se déclare non coupable et affirme n'avoir eu en aucun cas connaissance du contenu de la marchandise en provenance du Brésil. À l'heure actuelle, les auditions des différents acteurs impliqués se poursuivent pendant qu'au dehors, devant le tribunal, les curieux sympathisants syndicalistes attendent de connaître le verdict de cette audition qui, selon certains, a trop duré. C'est une audition dont l'accès est interdit, même à la presse, mais les réseaux sociaux font le relais tout simplement. Pour le moment, le temps semble être suspendu en attendant le verdict. De Cotonou, Ginette Fleur, dans les VOA Afrique.
Début ce vendredi de la campagne pour les élections municipales du 20 novembre au Mali, l'ambiance est morose et selon l'AFP, aucune affiche n'est visible sur les principales artères de Bamako, la capitale. C'est le premier scrutin dans le pays depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013. Issaka Campo est le premier vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale.
Les élections communales dont la campagne a été ouverte ce matin ont été programmées depuis longtemps. Depuis 2014, mais à cause de l'insécurité qui vit au centre et au nord, les élections n'ont pas pu se tenir. Mais aujourd'hui, la campagne qui est ouverte, les élections vont se tenir sur l'ensemble du territoire, à part la région de Menaka. Toutes les régions ont déposé les listes de candidatures. Et la CENI est en train de s'activer pour aller superviser ces élections partout où il y aura un bureau de vote.
Pourquoi la région de Menaka fait exception?
Bon, on n'a pas de réponse parce que les partis politiques n'ont pas introduit de liste là-bas. C'est-à-dire qu'au niveau de la CENI, nous, on n'a pas de réponse, mais c'est le gouvernement qui peut donner une réponse. L'ensemble des partis politiques et des candidats, au niveau de toutes les régions où les listes sont déposées, sont activées pour déposer les listes. Et nous comptons également sur la force Barkhane, les forces de l'aménagement et les forces de l'armée malienne pour pouvoir sécuriser les scrutins.
Issaka Campo, premier vice-président de la CENI, joint à Bamako par Kadiatou Traoré du service Bambara. Plus de 7 200 000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les quelque 12 000 conseillers municipaux des 703 communes du pays. Au Cameroun, 28 victimes de la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 80 morts fin octobre ont porté plainte contre les dirigeants de la compagnie Camrail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance et négligence. Les précisions de John Lyndon.
L'information a été rendue publique ce vendredi par leur avocat. Nous avons porté plainte auprès du parquet des tribunaux de première et grande instance des ECA, ville du centre du pays où le déraillement s'est produit, a affirmé Maître Guy-Olivier Modeng, membre d'un collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident. Le train bondé de voyageurs a déraillé le 21 octobre à Ezeka, quelques heures après son départ de Yaoundé pour Douala. Au moins 79 personnes sont mortes et près de 600 autres ont été blessées. La plainte vise Camrail, ses dirigeants et le conducteur du train, a détaillé l'avocat. Camrail est détenu à 77,4% par le groupe Bolloré. Dans la plainte, nous pointons des négligences, des défaillances, notamment sur le système de freinage du train et des omissions de porter secours aux accidentés, a poursuivi l'avocat. Une information judiciaire devrait être ouverte à la suite d'une enquête et ce n'est qu'au terme de ces procédures que le parquet des ECA dira si un procès sera ouvert ou non.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Tunisie, le ministre des Affaires religieuses Abdel Jalil Ben Salem limogé aujourd'hui pour atteinte au fondement de la diplomatie tunisienne après avoir établi un lien entre le wahhabisme saoudien et le terrorisme. Les détails avec Azouma Compaoré.
J'ai dit aux Saoudiens avec audace, réformez votre école car le terrorisme historiquement vient de là. Je vous dis cela avec amour et modestie. Ce sont là quelques-uns des propos ayant entraîné le licenciement du ministre des Affaires religieuses Abdel Jalil Ben Salem qui répondait à un député du Front populaire sur sa volonté de combattre la propagande wahhabite en Tunisie. Des propos jugés contraires aux fondamentaux et principes de la diplomatie tunisienne, a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement. Plusieurs quotidiens tunisiens ont toutefois consacré leur une vendredi sur ces déclarations contre le wahhabisme saoudien, une des versions les plus rigoristes de l'islam. La lutte contre l'extrémisme religieux est l'une des priorités de la Tunisie, qui a connu, après sa révolution de 2011, l'émergence d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Le pays compte des milliers de ressortissants dans les rangs d'organisations telles que le groupe extrémiste État islamique en Irak, en Syrie et en Libye voisine.
En Jordanie, deux instructeurs américains ont été tués et un autre blessé aujourd'hui après un échange de tirs avec des militaires jordaniens à l'entrée d'une base militaire aérienne dans le sud du royaume. C'est ce qu'a annoncé l'armée jordanienne, le point avec Saloua Jafari.
L'incident a eu lieu à l'entrée de la base du prince Faisal alors que les formateurs tentaient d'entrer dans la base selon un communiqué du gouvernement jordanien. Dans une première version, l'armée avait rapporté que les formateurs américains avaient ignoré les ordres des gardes qui leur demandaient de s'arrêter. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l'incident. L'ambassade des États-Unis en Jordanie a reconnu un incident de sécurité impliquant du personnel américain dans une déclaration reçue par l'AFP sans donner d'autres détails. En novembre 2015, deux formateurs américains et un sud-africain avaient été tués par un policier jordanien dans un centre d'entraînement de la police à l'est d'Amman. Cette attaque n'avait pas été revendiquée.
Présidentielle 2016 ici aux États-Unis, le président Barack Obama bat campagne pour la candidate démocrate, son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a fait appel à son épouse Melania Trump pour montrer qu'il n'est pas l'épouvantail brandi par les démocrates. Anastasie Tudiech.
Barack Obama revient à la charge. Le chef de l'exécutif américain a déclaré devant une foule de partisans à Miami que pour lui, le candidat républicain Donald Trump est singulièrement non qualifié pour être président et qu'il est, de par son tempérament, inapte à diriger l'armée.
And if we win Florida, we will win this election. It is in your hands.
Si nous gagnons la Floride, nous gagnons cette élection, a assuré le président américain qui s'est rendu ensuite en Caroline du Nord, autre état décisif de cette présidentielle. Il faut dire que les milliers d'Hispaniques de la Floride soutiennent Hillary Clinton et qu'ils sont très remontés contre Donald Trump qui a promis d'expulser tous les sans-papiers. De son côté, le candidat républicain en Caroline du Nord jeudi continue de tirer à boulets rouges sur sa rivale. Pour Donald Trump, la candidate démocrate est engagée dans une entreprise criminelle en rapport avec ses emails et elle fera probablement l'objet d'une enquête sur plusieurs années.
Pour la première fois depuis le début de la campagne, Donald Trump a fait appel à son épouse Melania, Anastasie Tudiech.
Oui, Melania Trump s'est adressée aux partisans de son mari dans la banlieue de Philadelphie. Elle a promis, si elle devenait première dame, qu'elle ferait des femmes et des enfants sa priorité et s'engagerait contre le harcèlement dans les écoles. Et Madame Trump d'ajouter
« Our culture has gotten too mean and too rough. Especially to children and teenagers.
Notre culture est devenue trop dure et trop méchante et nous devons trouver une autre manière de nous parler. Deux sondages d'opinion publiés hier jeudi donnent un léger avantage à Hillary Clinton.
Merci Anastasie Tudiech. Et pour terminer, la bataille de Mossoul en Irak, les troupes irakiennes ont renforcé leur position aux portes de la grande métropole du nord du pays, préparant l'assaut sur le dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.